On peut passer finalement au cœur de notre débat qui va être cette mobilité entre les entreprises et le secteur public. Qu'est-ce qui va motiver, qu'est-ce qui motive à s'engager dans cette mobilité? Quelles sont les contraintes?
Sur la motivation d'abord, on n'a pas parlé d'argent. Alors, je ne dis pas que quand on va dans le privé, évidemment, ça fait partie des motivations. Bon, et de même que quand on revient dans le public, ça fait partie des préoccupations. Mais ça n'est pas la motivation principale. Je dis ça parce que moi, quand je suis parti, mon patron dans l'administration m'a dit, oh, vous partez pour le fric. Alors, j'ai essayé de lui expliquer, mais non, bah, non, enfin, pas seulement en tout cas. Ça, bon. Moi, ce que je constate en vous écoutant, c'est que finalement, il y a des motivations qui sont autres, qui sont nobles. Tout ça pour dire, il ne faut pas forcément avoir honte parce que vous partez dans une entreprise en ayant l'impression d'avoir trahi l'État, vous y allez pour du fric, pour vous vendre, etc. Parce que je pense que finalement, et en particulier aujourd'hui où les gens partent beaucoup plus jeunes et donc ils ne vont pas non plus faire un saut de rémunération absolument fantastique, je dirais, c'est pas non plus. Voilà. Alors, bon, il y a des obstacles. Déjà, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire, comment on va chercher, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, parce qu'on ne peut pas non plus lancer son filet et espérer qu'en remontant, il y aura des petits poissons ou des gros poissons, parce que ça ne marche pas vraiment comme ça. Et par ailleurs, le regard des recruteurs, des DRH, voire des cabinets de recrutement, n'est pas toujours extraordinairement positif en ce qui concerne les hauts fonctionnaires, qui, pour des raisons, je pense d'ailleurs, qui sont plus liées au passé et aux générations précédentes qu'aux générations actuelles, que je trouve moi, personnellement très bien. Il y a toujours cette image du haut fonctionnaire arrogant, qui sait tout, qui met pas les mains dans le cambouis, etc. Je pense que là, il y a tout un travail à faire quand même aussi pour faire évoluer un petit peu les mentalités. C'est parfois, les process de sélection sont parfois un peu durs. Hein, alors, passer des concours, c'est dur, mais parfois passer des épreuves pour rentrer dans une grande boîte, c'est pas évident. On fait passer des assessments, des trucs, des tests croisés, bon, après tous les dirigeants, tout le COMEX, etc. Bon, voilà, c'est pas si
C'est de la
évident.
combativité qu'il faut
Oui,
aussi,
il
c'est
faut
ça?
quand même. Alors, il faut le faire avec l'humilité qui convient, surtout
Oui.
qu'il faut réussir à gommer un peu l'image de l'énarque arrogant qui sait tout. Mais en même temps, il ne faut pas non plus, je dirais, cacher ses atouts, parce qu'on en a. Enfin, vous l'avez très bien dit, d'ailleurs, on sait faire un certain nombre de choses. Alors, bon, si on est sur des métiers très techniques, dans des secteurs régulés, évidemment, les gens voient tout de suite l'intérêt de recruter un fonctionnaire. Mais alors là, on tombe très vite dans les sujets qu'on évoquait de déontologie, mais même sur des choses plus transversales, c'est évident que, voilà, les parcours assez diversifiés, parce qu'on a des parcours diversifiés dans l'administration, plus que dans l'entreprise, constituent des atouts. C'est vrai qu'on a tendance en France à mettre les gens dans des cases. Et comme l'a dit tout à l'heure Charlotte, à partir d'un certain moment, même des hauts cadres du privé, on est quand même dans une filière. Et donc se dire, on va recruter une espèce d'ovni qui a fait des tas de trucs très différents, mais on ne sait pas très bien ce qu'il sait faire, ce n'est pas évident. Et vous arrivez dans une entreprise où, par ailleurs, les gens ne vous attendent pas. Il y a par ailleurs des cadres de dirigeants, etc., qui sont même très très bons. Voilà, ils ont fait les mêmes études que vous, sauf qu'au dernier moment, ils n'ont pas passé l'ENA. Enfin, je caricature un peu, mais enfin, il y a un petit peu de ça. Et ils sont ingénieurs, vous êtes un profil d'un ingénieur. Donc, tout ça, ça joue. Mais je pense que, voilà, il y a des obstacles qu'il faut avoir en tête, mais il y a aussi, je pense, des atouts, il ne faut pas les masquer.
On a quand même abordé un certain nombre de sujets, entre autres la gestion des ressources humaines. Hein, on a abordé finalement l'aller et le retour. C'est un vrai sujet. On voit bien que c'est un des sujets. Et puis un dernier sujet qui pourrait paraître anecdotique, mais qui pour vous ne l'est pas et qui pour vous aurait pu ne pas l'être, qui est d'être marqué politiquement, qui peut aussi faire partie des idées reçues qui sont difficiles à dépasser.
C'est un véritable sujet hein, quand on sort d'un cabinet, quand on sort d'un mandat, évidemment. L'entreprise n'aime pas la politique, ne veut pas mélanger finalement la politique avec son activité parce que une entreprise est apolitique par essence, c'est pas son objectif. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une difficulté. Et c'est concrètement, hein, le président de la République, Emmanuel Macron, en 2017, a souhaité faire largement appel à des nouveaux visages. Ça a été aussi concrètement une volonté des Français de voir arriver des gens qui n'étaient pas des professionnels de la politique dans ce milieu pour changer un peu les choses. C'est vrai que quand on arrive, quand on a plus de chefs d'entreprise, moi j'étais chef d'entreprise avant d'arriver, ce n'était pas un profil habituel. À l'Assemblée, ça nous a permis d'avoir une autre vision des choses. et d'amener, j'espère, des choses différentes et peut-être un peu plus opérationnelles. En tout cas, on a été beaucoup plus sur le résultat et sur l'évaluation parce qu'on avait cette culture-là. Malgré tout, le retour du coup en entreprise est assez compliqué. D'une part, parce que on a aussi, on pâtit également d'un a priori. Mais concrètement, il faut qu'on explique effectivement qu'on n'est pas resté à rien faire et que ce marquage politique, finalement, il était au service de l'intérêt général et que oui, ça correspond à un courant de pensée. Et d'ailleurs, il y en a plein dans les entreprises. Mais on n'est pas obligé, quand on est dans l'entreprise, en tout cas, on n'est pas là pour défendre les idées politiques. On est là pour défendre la raison d'être et l'objectif de l'entreprise et de le faire avec ses compétences, avec ses savoir-faire, avec ses savoir-être. On ne demande pas, lors de l'entretien d'embauche, Dieu merci, quelles sont ni les convictions religieuses ni les convictions politiques des gens, parce que si on se mettait à recruter des gens sur ça, on n'y arriverait plus. Et c'est également cette diversité dans la fonction publique, enfin, dans la fonction publique qui en fait sa richesse.
Une remarque en disant que les entreprises sont des objets politiques.
Moi, je peux me permettre, et ce n'est pas une nuance, c'est que, en revanche, la question de, ça a été évoqué, la question de la mission. Quand on a travaillé pour l'intérêt général et le service public, c'est important d'arriver dans... on aura du mal à s'adapter dans une entreprise qui n'en est pas dénué, mais pour lequel ça passe vraiment au bien longtemps. Moi, je suis au sein d'une entreprise qui s'est donné la mission de rendre le sport accessible à tous. C'est très important et il y a aussi des actions RSE qui sont fortes. Globalement, quand on passe du public au privé, il faut quand même avoir en tête, parce qu'on est quand même habité par cette force du collectif, et donc d'aller dans une entreprise qui a quand même des choses, des convictions et des valeurs.
Vous avez bien fait ressortir le fait que finalement aujourd'hui, tout le monde, la quête de sens est universelle, que l'on travaille dans le public ou dans le privé, et que à travers notamment les entreprises à mission, on voit bien que tout le monde recherche une espèce d'espace commun où on contribue à la société, où que l'on soit. D'un autre côté, on constate des comportements dans la société qui sont de plus en plus individualistes. Et la question qu'on nous pose, c'est comment. C'est une question qui s'adresse aux jeunes, aux plus jeunes que nous en tout cas. Donc, comment on peut embarquer des jeunes aujourd'hui dans une aventure au sein d'une entreprise publique ou de la fonction publique, d'un organisme public, les convaincre qu'ils gagneront à choisir le public, pas pour la vie, mais pour un moment.
De temps en temps, j'ai des jeunes étudiants qui ont des coordonnées. Ouais. De différentes manières, ils m'appellent pour savoir ce qu'ils doivent faire, est-ce que ça vaut le coup de passer le concours, de les faire autre chose, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est que, d'abord, ils ont quand même tous fait des études très impressionnantes, mais cette idée du sens, elle est très forte. Alors, bien sûr, il y a aussi l'aspect un peu zapping, hein, qui est un petit peu général maintenant, mais je pense qu'il y a quand même cette volonté aussi de s'inscrire dans quelque chose qui ait du sens par rapport à leur projet, à leur personnalité, etc. Et il y a encore pas mal de jeunes qui font des écoles de commerce qui passent quand même des concours, ce qui pourrait faire autre chose, ou des ingénieurs. Donc, moi, je pense que, je vais vous dire, je suis assez optimiste de ce point de vue-là, sur, à partir du moment où on n'encourage pas des comportements que je qualifierais un petit peu de mercenaires, hein, c'est-à-dire on se vend plus offrant, puis tous les deux ans, on change, etc. C'est honnêtement... À tout point de vue et au point de vue RH, je pense que ce n'est vraiment pas la bonne solution. Mais en revanche, des jeunes qui acceptent de s'engager en sachant que par ailleurs, ils pourront aussi, à un moment donné de leur carrière, parce que c'est enrichissant, pouvoir faire un pas de côté, aller en entreprise et aussi revenir, parce qu'on en a pas encore parlé, mais la question du retour n'est pas forcément une question très simple. Moi, de ce point de vue-là, je suis plutôt optimiste de ce que, des contacts que je peux avoir avec des jeunes, vous voyez, 25, 30 ans. Enfin,
d'accord, merci beaucoup.
J'avais été rencontré dans le cadre justement de ma mission de rapporteur de la GRH de la fonction publique, les jeunes de l'ENA. J'avais été voir leurs associations, j'étais allé à leur hackathon aussi à Strasbourg. Et concrètement, en discutant avec eux, ce qui ressortait, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivaient avec une vraie envie de s'engager pour l'environnement, pour l'éducation, pour... Vraiment, ils arrivaient, mais gonflés à bloc, avec cette envie d'agir sur la société. Et que tout d'un coup, ils étaient à la fin de leur parcours, ils étaient un petit peu rattrapés par le classement et le concours. Où là, tout le monde se mettait dans, un petit peu comme les hamsters dans la roue, et il fallait absolument arriver au bon classement. Et puis, finalement, ils oubliaient un petit peu. Puis, ils n'étaient pas forcément recrutés par le ministère auquel ils avaient pensé. Parce que quand vous êtes très, très bien classé, vous allez à Bercy, à la Cour des comptes, parce que c'est une très belle maison, très prestigieuse. Mais ce n'était pas forcément votre projet de départ. Et donc, on avait discuté beaucoup avec, avec M. Jarre à l'époque pour faire en sorte justement qu'il y ait plus d'entretiens. Et l'INSP et la fin des corps, je sais que ça perturbe beaucoup de gens. Mais concrètement, c'est aussi ça la visée derrière. C'est de se dire, faisons en sorte que des gens qui ont, des jeunes qui ont envie de s'engager avec déjà des idées, des envies, qui puissent aller jusqu'au bout de ces envies et qui ne soient pas bloqués quelque part par un système qui a son intérêt aussi, mais voilà, qui puisse vraiment y aller. Et ça, je pense que ça fera partie de l'attractivité. Ça, plus, je voudrais juste parler de la DITP. On a une super administration
interministérielle de la transformation
publique qui propose en fait à des profils très spécifiques dont on a absolument besoin, notamment dans la sécurité informatique, dans les très hauts profils IT. Il leur propose en fait des espèces de contrats d'intrapreneurs. Et ces intrapreneurs de la fonction publique, donc qui sont là pour 3 à 5 ans, en réalité, moi je les ai rencontrés aussi, il y en a plein qui restent. Une fois leur mission finie dans leur ministère, ils ont envie de continuer parce qu'ils ont découvert justement qu'au-delà de leurs compétences, au-delà de tout ce qu'ils pourraient gagner à l'extérieur, il y avait du sens, il y avait plein de choses à faire, surtout quand on leur donne de l'autonomie et de la latitude pour faire des choses.
Il y a une question qui s'adresse au cabinet de recrutement, je pense qu'elle nous concerne ici, et je la prends pour moi. Quand j'ai travaillé pour deux institutions publiques dans un cabinet précédent pour des accords cadres, donc de longue durée avec un volume important. L'une, c'est l'ANSSI, et l'autre en ministère des Armées. Aller chercher des jeunes talents, travaillant en général dans le privé, parfois dans la tech, dans des licornes, dans des sociétés comme celle-là, des startups, en leur proposant des CDD avec un niveau de rémunération inférieur ou plus souvent à celui qui. C'est pas facile. Ce n'est pas qu'une question de lever des a priori, de vendre, de présenter, d'être au service de la marque employeur et donc de vendre l'attractivité du public. Je pense qu'on sait le faire. C'est aussi affronter des obstacles qui peuvent être décourageants pour des jeunes qui pourraient au contraire se dire « Ah oui, donc si je vais servir mon pays, ouais. Le ministère des Armées sur des postes de contractuel, je vais servir mon pays. » Est-ce que vous en... Est-ce que vous avez quelque chose, je ne sais pas, Charlotte ou Virginie, ajouté
là-dessus avant? C'est que quand j'étais à la ville de Paris, j'avais besoin d'avoir des experts qui maîtrisaient la compétence financière privée, qui pouvaient aller challenger les business plans des entreprises et qui nous faisaient gagner des millions parce qu'ils arrivaient à trouver les endroits où. Ces gens venaient, voulaient sortir des entreprises privées où ils étaient. Et à un moment, la question de l'argent, même sur des profils jeunes, se posent parce qu'on les mettait dans des grilles. On leur disait « Ah, mais vous êtes à école plus 2, donc comme un Sciences Po généraliste, vous êtes ça. » Sauf que leur marché à eux, mais c'est même, je suis sur l'IT, leur marché à eux, il est bien plus élevé. C'était un enfer pour avoir une rémunération qui n'était pas non plus déconnante. Mais je veux dire, moi, j'avais des jeunes qui devaient peut-être gagner… 3 500 NEC, et on leur disait tu vas gagner 1 800 ou 1 900. Enfin, finalement, je remercie là cette fois-ci la DRH, on y arrivait, mais au prix de 10 000 efforts. Et quand vous avez quelqu'un du privé, vous devez lui expliquer la complexité, les grilles, c'est là où.
Mais c'est vrai surtout sur des profils d'experts,
voilà.
Plus sur des
compétences.
Ouais. Oui, oui.
Et ces gens-là, moi j'avais fait des bilans, je dis alors là, ils ont fait gagner X millions sur un contrat. Et alors, évidemment, il n'y a pas de primes, ou pas ce qu'on appelle des primes dans le privé. Donc, il n'y avait même pas ce truc de dire, tiens, si vous faites gagner 5 millions sur un contrat en redevance, d'avoir un truc de, on peut primer les gens pour le résultat. Impossible. On a réussi à trouver un gap, mais les personnes que j'ai recrutées ont accepté d'être payées 30% de leur précédente rémunération. Et pour certains qui étaient dans des institutions internationales pas fiscalisées, non fiscalisées, bon... Donc,
je pense qu'ils repartent ensuite.
Ils repartiront. Mais alors, ça, je pense que maintenant, le côté faites votre vie dans une boîte, et moi, je suis dans une boîte où les gens font leur carrière, c'est fini. Donc, il faut accepter ces allers-retours, il faut les accepter, autant les accompagner, parce que ça, le truc qui reste sur du long terme, c'est pas grave, mais il faut juste quand même être capable. Il y en a qui veulent pas de CDI, mais certains veulent. Pour pouvoir avoir leur caution, pour acheter leur maison. Et même ça, on leur refuse. Et faire venir en contractuel, si on lui dit, en plus, t'es pas en CDI, donc ils ne peuvent pas montrer une garantie pour acheter leur logement, ils sont payés moins. Bon, je pense qu'on a encore sur les outils des petits trucs pour fluidifier ces passerelles.
Il y a une question qui reboucle bien avec la dernière partie qu'on devait évoquer, c'est finalement le retour d'expérience à titre individuel et aussi pour les organisations qui accueille ce type de parcours. C'est quoi ce retour d'expérience? Et il y a une des questions, qu'est-ce que vous avez appris chacun en sortant de votre port ou de votre secteur d'origine? Peut-être une réponse chacun. Qu'est-ce que ça vous a appris? Et puis peut-être, je ne sais pas.
Moi, clairement, je travaille plus de la même manière en ayant eu cette double expérience. C'est très clair, j'en suis parfaitement conscient, je le vérifie tous les jours. Je ne sais pas si mes employeurs publics, depuis que je suis revenu, en sont aussi confiants que moi, mais c'est une évidence. C'est très riche. Je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui l'annonce de la nomination de deux dirigeants publics importants. Marianne Barbalayani, présidente de l'AMF, Luc Raymond, PDG d'EDF. C'est l'exemple type de la richesse et de l'intérêt pour l'État, d'ailleurs, de récupérer des gens qui ont ce parcours mixte. Alors, le sujet du retour, après, là, on parle de cadre de aux dirigeants, ça, je pense que l'État sait assez bien gérer le retour. Pour des gens qui ne sont pas au niveau cadre dirigeant, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et là, il faut un petit peu, c'est vrai. Vous voyez, quand je suis revenu, bon, je suis d'abord allé à la direction. Bon, j'ai la chance d'être à la Cour des comptes, donc ça facilite quand même un peu le retour. Il ne faut pas se le cacher. Je suis allé, il y a une direction interministérielle des cadres supérieurs à Matignon. Je suis allé les voir. Ils m'ont dit, ah, c'est formidable. On va te remettre dans des parcours, des trucs de formation, ça, il ne s'est jamais rien passé. Bon, c'est pas grave, je me suis débrouillé. Mais là, on voit bien que c'est difficile et je pense qu'on gagnerait quand même, sans que ça encourage après les gens à faire encore une fois les mercenariats, comme je disais tout à l'heure, mais je pense qu'on gagnerait quand même du côté des RH, etc., public, à mieux gérer ces parcours-là. On arrive à le faire maintenant pour des cadres de très haut niveau. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à le faire aussi pour des cadres au niveau juste en dessous
Virginie, qu'est-ce que ça t'a appris
Non, moi, j'ai commencé comme journaliste à l'équipe. Mon mantra, c'était d'être curieuse de ce qui allait se passer. Ce que je veux dire, c'est que quand on est sur des parcours comme ça, il faut être extrêmement perméable, extrêmement curieux, extrêmement adaptable. On a le droit d'avoir envie d'être plutôt dans des habitudes ou des choses comme ça. C'est pas ce qui est prôné toujours, mais c'est vraiment important. Il faut se rendre compte que quand on passe, par exemple, moi, du journal d'équipe et que mon premier poste public, c'était l'ONICEP, dans les codes culturels, la façon dont les gens s'expriment, les mails qu'il faut envoyer avec 4 copies, enfin, il y a tout un tas de choses à apprendre. Il faut apprendre évidemment vite pour que ça fonctionne bien. Donc, c'est cette perméabilité très importante et surtout une grande ouverture. Ne pas juger, ne pas dire c'est pas comme ça qu'il faut faire ou c'est pas bien. Nous, ce sont les codes qui sont en vigueur, les adopter, les faire sien et puis évoluer. Donc, ça, c'est très important.
Je ne sais pas si vous voulez aussi intervenir.
Moi, ça m'a renforcé d'être combatif. La combativité et m'assumer, c'est-à-dire. Je suis partie de la ville, mais en fait, je me suis retrouvée dans un environnement d'hommes plus âgés, ingénieurs, et à un moment, spécialistes. Et donc, maintenant, au départ, j'avais une forme de pas d'autocensure, mais un peu de je ne me sentais pas, au niveau des petits états d'âme qu'on peut avoir. Et maintenant, non, en fait, j'assume d'être une femme plus jeune dans un environnement d'hommes et d'avoir ce parcours qui est différent et qui a quelque chose à apporter aussi à l'entreprise. Et donc, plutôt que d'essayer de me fondre dans cette masse-là, en fait, il faut assumer un peu sa différence, montrer l'exemple, un peu tracer sa route et se dire « j'apporte quelque chose ». Et je pense, c'est plus m'assumer et être combatif.
Oui. Pensez bien que vous avez des compétences transformables partout, qu'elles soient dans le public ou dans le privé, vous savez faire des choses. C'est pas toujours facile de se dire, je vais calquer ce que j'ai fait dans le public pour le faire dans le privé ou inversement, mais on a tous des compétences, qu'on peut mettre au service de, voilà, d'un poste. Et elles sont aussi intéressantes et utiles dans le public vers le privé que l'inverse. Okay. Donc, surtout, ne vous censurez pas là-dessus et faites-vous confiance sur ce que vous savez faire.